Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour étudier la parole du Seigneur. Nous en sommes dans le livre de psaumes, et le psaume que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le psaume 105 au psaume 108. Voilà, nous allons commencer par le psaume 105.
Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Voilà, on va s'arrêter là. Puisque c'est un verset qu'on connaît, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est souvent utilisé pour intimider les enfants de Dieu, les empêchant de poser des questions au pasteur ou de remettre en question certaines choses. Nous n'encourageons pas la rébellion, mais nous voulons dire tout simplement c'est que au milieu des enfants de Dieu, nous devons être libres de nous exprimer, de poser des questions et d'exprimer nos difficultés. Voilà, toujours dans le respect des uns et des autres. Donc ne touchez pas, mais oui, quand on voit ce verset-là, on voit bien qu'il ne parle pas des oints-là, ce n'est pas seulement une catégorie de personnes, il s'agissait de tous les enfants d'Israël. Après, il rajoute, ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais quand il parlait de ne touchez pas à mes oints, il s'agissait de tous les enfants d'Israël, parce que quand on voit le contexte, c'est écrit, et ils allaient d'une nation à l'autre. Donc là, il parle du peuple d'Israël et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Il parle bien de tout le peuple. Ne touchez pas à mes oints. Voilà, il parle bien de tout le peuple. Après, il y a une particularité, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais je voulais revenir lire le verset 4 qui dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Un des problèmes que nous avons dans le monde chrétien, c'est de penser que, ayant fait certaines choses pour attirer la faveur de Dieu, c'est bon une fois pour toutes. Et quand des difficultés arrivent, on se dit « Mais on a déjà fait telle chose, on a déjà prié, on a déjà jeûné, on a déjà lu la parole. » Oui, mais nous sommes appelés à renouveler ça. Quand les choses arrivent, même si on est quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup prier, ce n'est pas une excuse pour ne plus prier, pour ne pas chercher sa face, comme on dit, chercher continuellement sa face. Certains sont parfois découragés et se disent, mais je vais faire quelle autre chose que je n'ai pas encore faite. Respirer, tu le fais bien tous les jours, toutes les secondes, tu renouvelles la respiration. Alors pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas renouveler la prière? Donc c'est un piège que souvent Satan nous tend de nous pousser à arrêter de prier en disant, mais tu as déjà prié, tu as déjà jeûné. Mais oui, là, il faut encore que je le refasse puisque je suis déstabilisé. Là, il faut que je le refasse parce que je me sens perdu. N'hésitons pas, bien-aimés, à prier sans cesse. D'ailleurs, c'est un verset biblique, hein, prier sans cesse. Voilà, donc c'est ce que je voulais donner comme point important à retenir. Ne touchez pas à mes oints, il s'agit de nous tous, les enfants de Dieu. Et puis, n'hésitons pas à chercher la face de Dieu, à renouveler les temps de prière. Continuons à chercher. C'est continuellement, il est écrit, cherchons la face du Seigneur. Nous lisons la suite.
Verset 16. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et emmena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et apparurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers.
J'espère que pendant que l'ancien est en train de lire, nous tous on se rappelle que c'est tout ce qui se passait en Égypte, hein, les plaies d'Égypte qu'on est en train de citer là. Nous continuons.
Et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés de leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna des terres, des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Louez l'Éternel.
Amen, amen. Donc c'est un psaume qui finit par nous demander de louer l'Éternel parce qu'il est fidèle. Le thème de ce psaume, c'est la fidélité de Dieu envers son peuple. C'est bien quand même de temps à autre de se rappeler la définition des mots. La fidélité, c'est lorsque quelqu'un est constant dans ses sentiments, dans son attitude. Voilà, Dieu est constant dans sa bonté, dans son amour, dans sa justice. Il est constant, il ne fluctue pas. D'ailleurs, il est dit qu'en lui, il n'y a même pas de changement ni d'ombre de variation. Et cette fidélité est une grâce pour nous. Parce que imaginez quelqu'un qui est toujours amour, bon, ça veut dire qu'on peut recourir à lui à tout moment. C'est vraiment extraordinaire la fidélité de Dieu. Et là, ce psaume nous retrace l'histoire d'Israël depuis qu'il il a constitué Jacob en peuple, depuis qu'il il a fait alliance avec Jacob, il a été fidèle à sa parole. Il est écrit au verset 8, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Il s'en rappelle. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, parce qu'il se rappelle. Et il a érigé ses propres promesses en loi pour Israël, en alliance, en contrat. En fait, c'est une alliance, c'est un contrat. La parole de Dieu est comme un contrat. Donc, quand tu lis ça, c'est comme un contrat que tu as signé avec lui. Il fera sa part, puisque lui, il est juste, fidèle et bon. On peut vraiment compter sur lui. Et c'est ce qui nous montre toute cette histoire qui est racontée depuis les, qu'il a constitué Israël en nation, les chemins par lesquels ils sont passés déjà en Égypte, comment il les a gardés, malgré le fait qu'ils étaient sous la domination de Pharaon, il les a gardés, il les a sortis d'Égypte dans la gloire, avec gloire. Il les a amenés en terre promise, mais le chemin fut difficile. Malgré le fait que le chemin a été difficile, et surtout difficile à cause du comportement des humains qu'on va voir dans le psaume qui suit, Dieu, lui, l'a été fidèle. Parce que le psaume qui suit va nous montrer, au contraire, l'infidélité des humains, l'infidélité du peuple. Mais malgré tout ça, Dieu, lui, a été fidèle jusqu'à les amener en terre promise, à leur faire échapper quand ils étaient attaqués par des rois sur le chemin de la terre promise. On nous explique sa fidélité tout le long du chemin. Et au verset 45, on nous dit, il a fait tout ça. Hein? Il a été fidèle, il a montré, il a multiplié le peuple, il leur a donné le fruit du travail des peuples. Le but de tout ça, c'est quoi? Afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Le but de la fidélité de Dieu, ce que ça devrait produire à chacun, en chacun d'entre nous, c'est notre fidélité à sa parole. Puisque lui, dans l'alliance qu'il signe avec nous, que constitue la parole, dans ce contrat, lui, il montre sa fidélité, il a rempli sa part à lui à chaque fois que c'était nécessaire. Ça doit susciter en nous. Et qu'est-ce que ça doit susciter en nous? Ça doit susciter en nous le même sentiment que lui, la même constance que lui. Quand on a affaire à quelqu'un qui remplit toujours ses engagements, on a envie, nous aussi, d'être des personnes qui remplissons aussi nos engagements. Voilà. On a envie d'une communion parfaite. Lui, il remplit tous ses engagements. Alors, nous aussi, nous devons remplir notre engagement. La fidélité de Dieu, c'est quelque chose qui fait qu'on peut crier à lui à tout moment. Il est fidèle. Le Dieu qui t'a fait du bien hier, c'est le même aujourd'hui. Le bien qu'il t'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est ça la fidélité, quelqu'un qui est constant. Quelqu'un qui est attaché fortement à quelque chose. C'est ça la fidélité. Dieu est fidèle. Et cette fidélité est une force pour nous. Quel que soit ce que tu sens dans ton corps, quel que soit ce que tu sens dans ton entourage, les mouvements qui se font. Aujourd'hui, nous entendons peut-être qu'il va y avoir une guerre. Quel que soit ce que nous entendons, nous devons comprendre que Dieu est fidèle et il le sera toujours. Et sa fidélité, c'est quoi? C'est qu'il sera toujours bon, il sera toujours droit, il sera toujours vrai, il sera toujours miséricordieux. Nous pouvons revenir à lui à tout moment. Et un passage du Nouveau Testament nous dit, ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que Dieu va être infidèle. Dieu, lui, il demeure fidèle. N'oublions pas cela et que cela nous pousse à prier. Donc, du coup, on va en profiter pour prier concernant cette guerre qui est possible entre la Russie et les pays occidentaux. Prions qu'à travers tout cela, Dieu montre sa fidélité à son peuple. À travers tout cela, Dieu interpelle les chrétiens sur les prophéties bibliques qui disent qu'il y aura des guerres et de bruits de guerre, et que les gens voient à travers tout cela l'accomplissement de la parole de Dieu, donc la véracité de la parole de Dieu. Prions en même temps qu'il n'y ait aucun impact économique, matériel, sur les enfants de Dieu. Dieu est fidèle. Celui qui a protégé Israël tel qu'on a lu là, c'est écrit, « Ne touchez pas à mes oints. » Voilà. Verset 14, « Mais il ne permit à personne de les opprimer. » Prions que le Seigneur protège ses enfants dans tout ce qui se passe là. Seigneur, nous venons prier, Père éternel, pour réclamer ta fidélité, Seigneur. Nous venons prier que tu te manifestes dans ta bonté, dans ta puissance et dans ta gloire, ô Éternel. Nous venons prier, Seigneur, que ces bruits de guerre, cette probable guerre, Seigneur, fasse comprendre aux uns et aux autres que nous sommes à la fin. Fasse comprendre aux uns et aux autres que ta parole est la vérité, Seigneur. Manifeste-toi pour nous parler à travers tout ceci. Nous nous attendons à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, également de protéger tes enfants, où qu'ils soient en Ukraine, qu'ils soient en Russie ou en Occident, protège tes enfants, que l'impact économique et social de cette guerre possible, Seigneur, que son impact soit sans effet sur tes enfants. Nous croyons en ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Amen, amen. Seigneur, merci aussi d'ouvrir des portes pour l'évangélisation à travers ces troubles. Amen. Nous continuons avec le psaume 106.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge, et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes dans un désert, comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe. La flamme consuma les méchants. Ils firent un vœu à Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge.
Voilà un terme très important au verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Un de nos grands problèmes, c'est l'oubli. L'oubli du passé, l'oubli de ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est quelque chose contre lequel nous devons combattre. Comment nous devons le combattre ? À travers la louange. La louange, les remerciements. Ça nous permet de nous rappeler ce que Dieu a fait. Parce que quand tu veux louer, tu dois avoir des éléments. Mais ces éléments-là viennent de ce que Dieu, entre autres, de ce que Dieu a fait dans le passé. Ça nous permet de rester avec un cerveau frais de bienfaits et des exploits du Seigneur. Quand on baisse dans la louange, on s'expose à des difficultés. On s'expose à la baisse de la foi également. Que Dieu vraiment nous aide. Ça, c'est une prière aussi qu'on fait, que je refais encore. Que Dieu nous aide à le louer. Un de nos problèmes, c'est qu'on ne regarde que à certains péchés. Du moment qu'on est correct, on n'a pas volé, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on plonge dans une vie chrétienne routinière. Ce qui fait que on perd en puissance. Et en perdant en puissance, on plonge davantage dans la routine, dans les traditions, et on n'a plus la force de faire face aux événements de la vie. Et quand nous louons Dieu, bien-aimé, il y a une force spirituelle qui se renouvelle en nous. Et c'est aussi juste. Ne pas louer Dieu, c'est une forme d'injustice dont on ne se rend pas compte. On se dit, mais moi je crois en Dieu. Mais oui, mais quand tu ne sais pas remercier, tu ne sais pas rendre grâce, c'est une forme d'injustice. Parce que tu n'hésiterais pas, toi, à reconnaître la beauté d'une fleur, d'un paysage. Alors comment tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu dans ta vie pour la proclamer? Et nous sommes appelés à louer. À chaque fois qu'on lit des textes où on dit louer l'Éternel, je me sens indigne de lui, quoi. Je me sens en défaut. Vous savez, quand on te prend en défaut, voilà. C'est-à-dire qu'on est là, on est très bien, et puis dans la lecture, on tombe sur louer à chaque fois. J'ai l'impression que je ne fais pas les choses comme il faut. Et je demande au Seigneur vraiment qu'il nous aide à le louer, parce que je pense que ça va tout changer dans notre façon de marcher avec lui. Et vous voyez, eux, ils ont oublié, et en oubliant, voilà, ils ont fait vraiment des sérieuses bêtises. Hein. Ils se montrèrent jaloux contre Moïse, contre Aaron. Voilà, ils ont fait un veau en Horeb pour l'adorer comme si c'était Dieu. Tout ça, c'est à cause de l'oubli. Parce que ce qu'eux, ils ont vécu, mais bien-aimés, vous vous rendez compte, la mer qui se sépare en deux. Quand tu vis des choses comme ça, tu vis une colonne de feu qui vous conduit la nuit, une colonne de nuée la journée. Quand tu vis ça, mais l'homme, quand il est maintenant face à des réalités nouvelles, la faim, la soif, voilà, certaines difficultés, il oublie celui qui l'a sauvé autrefois. C'est pourquoi nous avons dit, au psaume 105, c'est la fidélité de Dieu est très importante comme notion. Et là, il nous est dit, ils ont oublié des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Même Dieu reconnaît que c'était un prodige que de séparer la mer Rouge en deux. Mais ces gens-là ont oublié. Que le Seigneur nous aide à avoir une mémoire fraîche concernant ses œuvres et à continuer à l'adorer. Oui, question ?
Question Internet. Donc l'Internet demande comment expliquer le verset 14. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. D'où est venue leur convoitise ? Puisqu'ils étaient dans le désert, il n'y avait donc rien pour les tenter.
Si, le passé, il se disait, autrefois en Égypte, on mangeait du bon poisson, on mangeait de la bonne viande. C'est le passé. Donc les gens, la convoitise, ce n'est pas ce qu'on voit seulement. C'est, la convoitise peut porter sur quelque chose qu'on ne voit pas. Souvenez-vous, on dit bien la convoitise, il y a, dans la convoitise, il y a trois sous-convoitises. La convoitise des yeux, effectivement, là, il faut qu'on voit. Mais il y a la convoitise de la chair. La chair peut se souvenir d'un plaisir du passé. Voilà. Mais il y a aussi l'orgueil de la vie. Il n'y a pas que la convoitise des yeux. Donc on peut être dans la convoitise d'ailleurs, dans une logique de curiosité malfaisante. Quelque chose que tu n'as jamais goûté, tu vois quelqu'un d'autre manger ça en étant joyeux ou bien siroter une boisson, tu es pris de convoitise alors que tu n'as jamais goûté ça. C'est la convoitise peut aller dans l'imagination. Voilà. Peut venir de l'imagination. Voilà, nous continuons notre texte. Voilà, on arrive au verset 23, voilà, ou 22. Pardon, je me suis trompé de psaume. Voilà, c'est le verset 23. Et Dieu parle de les exterminer.
Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor. Ils mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phinée se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba.
Voilà, donc là, on nous cite hein, toutes les infidélités d'Israël. Il y en a beaucoup. On nous cite tout ça. Ils n'obéirent point à sa voix. Ils s'attachèrent à Baal-Péor. Ils ont sacrifié. Ils mangeaient des victimes sacrifiées aux morts. Voilà, on nous cite toutes sortes d'infidélités d'Israël. Et tout à l'heure, au verset 23, Dieu s'apprêtait à les éliminer. Nous nous souvenons de la prière merveilleuse de Moïse, l'intercession de Moïse qui dit à Dieu, qui lui propose, Dieu propose à Moïse de créer une nouvelle race humaine à travers lui et d'éliminer le reste là. Moïse dit non, 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 c'est ton peuple. Tu ne peux pas les laisser mourir comme ça. Les gens vont se moquer de toi. Tu n'as pas fait tous ces exploits en Égypte pour les amener ici et pour les faire mourir. Retiens-toi, ô grand Dieu. Sinon, moi-même aussi, ben élimine-moi aussi. Voilà, ça, c'est un vrai intercesseur. Donc, il prend la place de ce que Dieu s'apprête à frapper pour dire, dans ce cas, frappe moi-même. Et c'est ce que Jésus a fait. Moïse, c'est un type de Christ. C'est C'est le verset 23. Il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Bien-aimés, c'est ça notre travail. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous concentrer beaucoup plus sur la miséricorde et l'amour de Dieu plutôt que sur les méfaits des païens. Même si nos yeux les voient, d'accord, mais lorsqu'on s'intéresse trop aux méfaits des païens, ça, qu'est-ce qui se produit en nous? L'amertume est une sensation de colère, de rejet des païens. Pour dire, ils n'auront qu'à subir leur sort en enfer. Oh, ce n'est pas pour cela que Dieu nous a placés sur terre. Ce n'est pas pour cela qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés pour intercéder comme Moïse. Pour dire, Seigneur, mais malgré tout, c'est quand même toi qui les as créés. Tu ne les as pas créés pour l'enfer. Fais quelque chose. Utilise-nous. Parle-leur. Donne encore du temps. Vous savez, cette histoire sur la vigne, le figuier qui n'a pas produit, le maître voulait couper, on dit, mais non, maître, est-ce que tu peux donner encore un temps à cet arbre-là qu'il produise? Donnons encore. Donc on doit intercéder, dire, Seigneur, c'est vrai qu'ils exagèrent, mais toi, tu es bon et miséricordieux. Vous voyez, bien aimé, si quelqu'un ne puise pas suffisamment à l'amour et à la miséricorde de Dieu, il ne pourra pas soutenir les horreurs des païens. Il tombera dans une colère religieuse, dans une colère charnelle, qui au départ est une colère normale, mais qui devient une mauvaise colère lorsqu'elle ne fait pas face, lorsqu'elle ne mêle pas dans la structure, la bonté et l'amour de Dieu. Voilà, nous continuons.
Verset 32. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montraient rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse. Lorsqu'il entendit leurs supplications, il se souvint en leur faveur de son alliance, et il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion. De tout ce qui les retenait captifs, « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen,
Amen.
Louez l'Éternel. »
Louez l'Éternel, gloire à Dieu. Nous voyons, malgré tout ce qui a été cité comme péché, infidélité d'Israël, finalement, au verset 45, il est écrit, non, verset 44, il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Dieu est miséricordieux. Voilà, il a toujours pitié. C'est pourquoi nous ne devons pas hésiter à revenir à lui. La stratégie du diable, c'est de te dire: tu as fait trop de fautes, ce n'est pas la peine, tu es trop sale. Mais justement, il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Si tu es trop sale, ben Dieu a le savon qu'il faut pour te nettoyer. Il est tout puissant dans sa miséricorde et dans son amour. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour pardonner n'importe quel pécheur. Il faut juste avoir l'esprit véritablement repentant. Tu veux vraiment de la vérité, reviens à Dieu. Et il a eu pitié. Il est écrit, il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom. Quand on veut revenir à Dieu, bien-aimé, n'hésitons pas. N'écoutons pas la voix qui dit, t'as trop fait de mal, t'as fait ceci. D'accord, mais le sang de Jésus peut me laver et je peux recommencer une nouvelle vie. N'hésitons pas à retrouver une nouvelle vie. Et dans tout ceci, nous voyons une fois de plus la fidélité de Dieu. On nous cite toutes sortes d'infidélités des humains, mais lorsque ces humains, à un moment donné, prennent conscience que ce n'est pas une bonne vie pour eux, qu'ils crient à Dieu, Dieu répond toujours favorablement. Quand ces humains prennent conscience que la bonne vie à mener, c'est auprès de Dieu, dans la vérité et selon la nature de Dieu, le Seigneur est prêt à pardonner et recommencer une histoire, son histoire avec ces gens-là. Alors n'hésitons pas. Et d'ailleurs, bien-aimés, que cela nous pousse vraiment à prier pour les peuples difficiles, comme nous vivons ici en Occident. Nous sommes face à des peuples difficiles. Vous savez, finalement, tout compte fait, je me dis, mais la situation que nous vivons en Occident, elle est finalement beaucoup plus dure que la situation de nos amis qui sont partis en mission auprès des tribus non visitées par les gens des tribus les plus isolées qui ne connaissent rien de ce qui se passe ailleurs. Mais au moins là-bas, après 5 à 7 ans, 8 ans, il y a une vague de conversion qui a lieu. Mais là où nous vivons, ça fait parfois 20 ans, mais nous sentons une résistance spirituelle terrible. Pourtant, il y a la télé, il y a Internet, il y a toutes sortes de moyens que nous utilisons pour évangéliser. Voilà. Je pense que nous devons être stimulés par ce qu'on est en train de lire concernant la fidélité de Dieu pour dire, ah, donc même ici, là où on rejette tellement le Seigneur, il peut toujours agir parce que sa fidélité est grande. Voyez combien de péchés n'avaient-ils pas commis les enfants d'Israël. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, il a eu pitié d'eux. Donc nous allons jouer les intercesseurs encore en priant pour la France et les pays d'Europe qui ne veulent pas de Dieu, qui ne font que voter loi sur loi anti-Dieu. Nous allons prier que le Seigneur, dans sa miséricorde, les sauve. Oh Seigneur, nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons voir ta main puissante agir dans le nom de Jésus. Dans ce pays, Papa, dans ce pays. Oh Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Nous voyons combien d'infidélités ont commises les enfants d'Israël. Mais tu es revenu quand même. Tu es revenu quand même. Ils ont sacrifié des enfants à des idoles, Seigneur. Ils ont fait les pires abominations. Alors c'est vrai que la France et les pays d'Europe sont les spécialistes des sacrifices d'enfants par les avortements, par les vaccinations de ces enfants obligatoires et par toutes sortes d'attitudes qui produit dans les enfants la volonté de changer de genre ou autre. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, que tu pardonnes, que tu pardonnes, que tu aies un élan de miséricorde en faveur de la France et des pays d'Europe, Père éternel. Manifeste-toi, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Nous passons au livre 5. Oui, question ?
Oui, il y a une question internet. Donc, l'internaute demande, Pierre ayant vu Jésus marcher sur les eaux et par la suite le renier, n'a-t-il pas réagi comme les enfants d'Israël dans le désert qui avaient vu Dieu séparer la mer rouge, mais a rejeté Dieu par la suite?
Oui, oui, c'est séparé. Ok, nous... C'est un enfant d'Aaron, un sacrificateur. Ok, nous continuons. Le psaume 107, qui va nous parler des grâces, des bontés de Dieu. Voilà.
Psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie.
Voilà. Est-ce que nous voyons comment ça se répète à chaque fois? On cite les difficultés. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous exhorte après la délivrance? Verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Voilà. Et car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous. Et ensuite, ça recommence encore. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc, on nous fait parcourir plusieurs cycles où Dieu d'abord délivre le peuple. Et au lieu de passer du temps à louer Dieu, comme on avait dit précédemment, les gens oublient. Et quand ils oublient, ils entrent dans le péché, ils deviennent des insensés. Ils entrent dans une conduite coupable et comme Dieu est juste, on récolte ce qu'on sème. Quand on est dans des conduites d'insensés, dans des conduites coupables, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend malheureux, verset 17, et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. le péché, les problèmes de jalousie, de querelle, voilà, ça finit toujours par nous rendre malheureux. La haine, ça finira toujours par nous rendre malheureux. La colère qu'on ne refoule pas, ça finira par nous rendre malheureux. Et surtout, l'oubli de Dieu. L'oubli de Dieu. Quand on l'oublie, on s'expose à se rendre malheureux. Mais on nous dit, bon, c'est pourquoi le titre, c'est les bienfaits. Hein. On nous dit, mais quand il crie, voilà, le Seigneur a encore pitié et les secours. Nous allons continuer. Donc, je voulais quand même éclairer sur ce cycle-là pour qu'on soit beaucoup plus attentif.
Verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Ils changent le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Ils versent le mépris sur les grands. Il les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel.
Amen, amen. Voilà, on nous demande d'être attentif aux bontés de Dieu, à la grâce de Dieu. Parce que quand on n'est pas attentif, on subira sa justice. Il y a les grâces de Dieu, mais il y a aussi sa justice qui fait que quand on s'égare, quand on le néglige, on se retrouve dans la sécheresse. Voilà, c'est une réalité, on ne doit pas négliger ça. Il dit que celui qui est sage pense aux bontés de Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est vraiment ma prière principale d'aujourd'hui, que Dieu nous aide à le louer, que Dieu nous aide à nous rappeler ses bontés, sa grâce et sa puissance. Vraiment, c'est ça, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel, car sinon, nous vivrons son jugement et sa justice. Dieu a fait beaucoup de choses, bien-aimés. On ne peut pas nier ça. Mais c'est vrai que quand on regarde à notre présent, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Au niveau de la santé, au niveau du pays, au niveau parfois du service du Seigneur, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais ne pas maîtriser, ça ne veut pas dire échouer. Car notre vie, notre sort est entre les mains de Dieu. Tu ne maîtrises pas ta santé, mais ça ne veut pas dire que tu mourras. Tu ne maîtrises pas l'œuvre de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'elle va s'éclater. Car le Seigneur promet clairement, c'est lui qui bâtit son œuvre. C'est le Seigneur qui dit que c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Si il t'a choisi, comme récemment nous avons lu une pensée du jour, c'est que tu n'es qu'une branche. En quelque sorte, tu n'es pas extraordinaire, tu n'es qu'une branche de l'arbre. Mais attention, même si tu n'es qu'une branche, en soi, tu n'es pas extraordinaire. Mais tu es la branche de Dieu, c'est comme si tu étais son doigt. Et en cela, là, tu deviens très, très important. Tu ne devrais pas sous-estimer que tu es le doigt de Dieu quand même pour adopter une attitude, sous-estimer cela pour adopter une attitude de défaitisme, de fragilité. Non, je suis qu'une branche, je ne suis rien du tout. Parce qu'une branche, c'est quoi? C'est petit dans tout l'arbre. Mais attention, je suis une continuité de l'arbre. Je suis dans l'arbre. Donc, je fais partie de Dieu. Et en cela, rien ne peut m'arriver de mal sans que Dieu ne permette. C'est parce que je suis en quelque sorte dans lui. C'est très important de se souvenir de tout ça. Que même si ça ne semble pas marcher, ce que tu fais, souviens-toi qu'après tout, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Lui n'échoue jamais. Garde confiance. Que les choses nous échappent ne doit pas nous enlever la foi. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui pilote tout, c'est Dieu qui agit. Donc, en conclusion, bien-aimés, concentrons-nous sur les grâces, les bontés, les exploits de Dieu. Ne nous laissons pas distraire. Parce qu'il ne va pas sans tomber dans le déni. Je ne dis pas qu'on ne soit pas dans le qu'on soit dans le déni. Tu as mal à la tête, tu dis j'ai pas mal à la tête. Non, tu as mal à la tête. Sauf que ça ne doit pas captiver toute ton attention. Après avoir constaté que tu as mal à la tête, ben, tu cries à l'Éternel. Il est écrit à chaque fois, dans leur détresse, il les délivra. Verset 28, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Quand les angoisses viennent, on crie. Mais après avoir crié, on loue. Donc, au fait, tout le reste doit être des parenthèses, mais tout le temps, nous devons louer l'Éternel. Que Dieu soit béni. Nous passons au psaume 108.
Cantique, psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Et à moi, Galad, à moi, Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête. Et Juda, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon bouclier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
Amen, amen, amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a un chant qui dit ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, je le crois. Ça, c'est le psaume 108, verset 14. Et c'est le même verset dans le psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14 nous dit la même phrase. Nous allons chanter un chant qu'on a chanté. Je ne sais pas, le pasteur Jean-Luc, s'il est là. Avec qui est dans le psaume 108, ta fidélité, jusqu'au nu, c'est ce qu'on trouve dans le psaume 108. Je chanterai ton nom. Voilà, le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà. Et David dit, est-ce que c'est lui? C'est lui, oui. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Il dit même, c'est notre gloire que de louer le Seigneur. C'est notre gloire. Moi, à chaque fois que je lis des choses comme ça, je dis, ah, j'ai perdu du temps, quoi. Que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur nous réveille. Oui, on va chanter. Je chanterai, louer ton nom. Ta fidélité. Moi, je ne connais pas les paroles. Hein. Bon, même le pasteur aussi ne connaît pas les paroles. On ne sait pas. Mais pourtant, vous avez changé. Tu jouais aux instruments, tu jouais. Voilà. Ok, ben, on va changer notre chant, mais il faut qu'on loue le Seigneur. Voilà, il faut qu'on loue parce que ce qu'on lit là est en train de nous déranger. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi le peuple, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Voilà, nous allons chanter durant les jours, hein, enfin. Nous allons chanter durant les jours de ma vie. Oui, il y a une question, oui.
Il y a une question internet. On voit à travers ces psaumes que les Israélites sont allés très loin dans le péché, mais la délivrance de Dieu a été plus grande que leur péché. Mais quand nous prions, mais que les choses sont venimes, cela prépare-t-il une grande délivrance?
Bien sûr, il faut continuer. Là, ce qu'on vient de lire dans les psaumes 105, c'est que Dieu est fidèle. Le psaume 107, même s'il nous décrit l'infidélité en grande partie, ça finit encore par une partie sur la fidélité de Dieu qui répond. Donc si nous, on se laisse faire, ça sera de notre propre faute. Quand on lit des choses comme ça, on se dit, mais pourquoi je n'avais pas demandé pardon tout simplement? Pourquoi je n'avais pas tout simplement crié à Dieu? Parfois, on s'est mis dans des états, on s'est mis dans des situations, on a laissé faire, on a laissé couler les mauvaises choses. Quand on doit laisser couler, c'est quand c'est les bonnes choses. Mais quand on est dans des mauvaises choses, on doit réagir puisque Dieu est fidèle. Si, comme l'internaute vient de le dire, si Dieu a pu pardonner tout ce qui a été cité là, pourquoi il ne me pardonnerait pas à moi? Pourquoi il ne changerait pas ma situation? Parce que dans le psaume 107, on a vu des cycles. Il les délivre, il retombe, il les délivre, il retombe, il les délivre. Mais alors, pourquoi il ne ferait pas pour nous? Surtout que Christ est mort à la croix. Donc, quelqu'un qui reste dans la déprime, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui n'accepte pas la bonté de Dieu, voilà, qui n'accepte pas la gloire de Dieu. Nous allons nous relancer durant les jours de ma vie. Ou bien vous vous souvenez du chant? Non. Alors, durant les jours de ma vie, alors. Amen, amen. Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous voulons te dire merci, merci pour tous tes bienfaits innombrables. Depuis notre naissance, même avant notre naissance, tu as veillé à ce qu'on devienne ce qu'on est devenu, des enfants de Dieu. Tu nous as protégés dans les voitures, dans les avions. Seigneur, tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons, loué soit ton nom à jamais. Qui est comme toi? Avec toi, nous ferons des exploits. Gloire et louange à toi, Seigneur, au siècle des siècles. Que ton esprit, Seigneur, nous remplisse de l'esprit de louange, de l'esprit d'adoration. Esprit de louange, esprit d'adoration. Chaque jour, que tous ceux qui respirent, a fortiori les enfants de Dieu, que nous louions ton nom, Seigneur. Oh, ainsi nous serons vraiment ton peuple. Merci de nous accorder cela, Papa, au nom de Jésus. Donne-nous des chants nouveaux, des paroles nouvelles, au nom de Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci encore pour tout, pour la nourriture, pour la respiration, pour les vêtements. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se retrouve mardi prochain pour la suite des psaumes.